coup franc de Mathieu Valbuena. Faut aussi jeter la nation à la passion. La frappe de Ribéry, l'arrêt de Piatov, et peut-être le but. Les voilà le premier but de l'équipe de France. Il est signé Mamadou Sakho. Début chip pour la tête de Benzema, la reprise de Ribéry, qui sait, Pogba qui la récupère avec Evra maintenant, la frappe de Kaba, elle est détournée, elle est contrée, Benzema la frappe, le but, le deuxième but de l'équipe de France. Varane, la frappe de Evra, elle est repoussée, oh, dans les pieds de Valbuena, oh non, dans les pieds de Pogba, oh non, peut-être dans les pieds, le but, le but de Sakho, le but de Sakho, c'est la frappe de Ribéry,
Mamadou Sakho, j'en aurais essayé au commentaire à l'époque, invraisemblable, irrationnel. Mais Mamadou Sakho se disait, qu'est-ce que je fais là, un peu comme Ilan Thuram en demi-finale de la Coupe du Monde face à la Croatie en 98. France-Ukraine 2013, ce match nous permet d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Je vous rappelle que les Bleus avaient été battus 2-0 à Kiev au match aller, et on était au bord du gouffre. Et finalement, donc, le doublé de Sakho et le but de Karim Benzema, qui lui aussi ce jour-là avait eu une célébration qui montrait vraiment qu'il y avait une libération chez lui. Cette soirée a forgé le destin du sélectionneur, peut-être, et rallumé la flamme des Bleus, hein, alors qu'on était dans une période un peu morose avant un match indestin. Jérôme, on en a beaucoup parlé en préparant cette séquence. T'as marqué, toi, ce match France-Ukraine?
Ouais, alors déjà, l'ambiance le jour J sur le stade de France, comme je disais à l'instant, on ne reconnaît pas le stade. Quand on allume la télé, on prend l'antenne. Le stade de France est transformé. Celui qui est si froid d'habitude et chaud, on sent qu'il va se passer des choses. Et puis je pense que ce soir-là, c'est le match fondateur de tout ce qui va se passer après. Même si au Brésil, Mats Hummels nous arrête dans notre élan
en quart de finale,
en quart de finale face à l'Allemagne. Je fais partie de ceux, et je répète ce qu'a dit Jérôme Alonso sur une autre antenne cette semaine. Je pense que la France derrière est championne du monde parce que il y a ce match. C'est le point 1 de cette histoire avec l'équipe de France qui redémarre. Ce match-là, tu vas le chercher nulle part. Tu t'attends vraiment pas à ça. Tu penses pas que cette équipe-là, et rappelez-vous les commentaires et le caractère pour cela. Et t'as un Mamadou Sakho qui sort de là, quasiment de nulle part.
Toute sa vie, on l'appelle.
C'est l'homme de l'Ukraine. Et c'est clair qu'à partir de là, il se passe quelque chose chez les Bleus qui ne s'était pas passé avant.
Après, oui, que la défaite face à l'Allemagne nous ait porté vers le titre en 2011, on peut pas savoir. En revanche, si tu gagnes pas ce soir-là, des chances sautent, tu changes de sélectionneur, tu vas pas à la Coupe du Monde, et en effet, tu peux pas lancer la grande épopée de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et tu fais bien de souligner que ce soir-là, le Stade de France, et je crois que c'était une volonté de la Fédé de
faire pour le coup
le rugby. On regrettait souvent qu'il n'y ait pas assez d'ambiance dans ce stade. Il faut se souvenir, on n'est pas longtemps, on est quand même toujours en train de ressasser Nice-Na,
bien sûr.
Entre guillemets, des petits cons,
bien sûr,
les mecs qui ne savent pas gagner.
Les demandes en mariage en direct.
D'un creux générationnel. Tu as l'impression que tu es passé à côté de certains joueurs. Ce soir-là, tu as quand même, il y a Mamadou Sakho, mais il y a quand même Raphaël Varane aussi en charnière qui fait un match exceptionnel. Il y a le trio au milieu qui fait un match exceptionnel, Kabaï, Matuidi, Pogba, et là tu pars pour des années. Avec eux. Il y a Mamadou Sakho, donc c'est la belle histoire, même si elle est pas, la suite de sa carrière en bleu est quand même pas au niveau de
ces espoirs-là.
Mais tu as le match parfait parce que tu marques tôt, ton avant-centre te donne deux buts d'avance, il y a l'Ukrainien exclu. On avait pris 2-0 en Ukraine. Hein,
2-0, c'est ça.
Donc en effet, match fondateur, c'est marrant qu'un match de qualif comme ça.
T'étais au stade?
Ouais, j'étais au stade, c'était rare, et effectivement j'ai senti cette ambiance, c'était vraiment un super moment. Mais pour revenir sur ce que disait Simon par rapport à ce que ça a impliqué par la suite, oui, on sort Nice-Na 2010, Laurent Blanc, pas terrible, l'Euro 2012, voilà. Et puis ça a été fondateur aussi, et ça a été, pour certains, ça a été la fin. Nasri, il n'est plus jamais revenu en équipe de France. Hein. Il a joué le match aller, il ne le met pas au match retour, il ne le sélectionne pas à la Coupe du Monde.
C'est vrai, t'as raison.
Et c'est le début de Deschamps qui prend des signaux forts dans la construction de son groupe. Il a ses titulaires et son groupe. Ceux qui ne sont pas titulaires, quel rôle ils vont avoir?
Vivre ensemble pendant. Koscielny qui faisait
exactement
un peu débat.
Pendant un mois, quand tu vis ensemble, est-ce que tu acceptes de être remplaçant, quel est ton statut, etc. C'est aussi ça. Et effectivement, derrière, je pense que c'est ce match retour-là, a eu d'énormes conséquences positives pour le comment dire, pas le bilan, mais l'avenir.
L'avenir de Deschamps.
Après, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, en off, c'est peut-être aussi le fait d'avoir ce sentiment-là de déjà-vu en 93, je le soulignais. Et tu te dis, ah non, match retour, on va perdre, ça va être la même chose, on va être dégoûté, t'es en 2-0, c'est mort, match retour, vas-y, c'est la même équipe.
Oui, tu veux dire, non, c'est un match qui a réparé les blessures, peut-être.
J'ai l'impression, c'est pour ça que le public derrière, bam, ça a suivi. Mmh. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et
ouais. Si on avait peur de revivre France-Bulgarie.
Exactement, parce que si tu perds ce soir-là, c'est la première fois que tu vas pas au Mondial depuis justement 94. Donc, ouais, ça ravive forcément les mauvais souvenirs.
Non, mais en plus, il y avait le côté, on va pas aller au Brésil, à la Coupe du Monde, au pays du foot, quoi. On n'est pas invité à ce truc-là. Mais est-ce que c'est pas l'un des matchs les plus forts en termes d'émotion de l'histoire de l'équipe de France? Il y avait un sondage en 2016 qui disait que, alors en 2016, hein, on n'avait pas encore était à nouveau champion du monde derrière, mais qui disait que derrière les deux finales remportées en 98 et en 2000 et Séville 82, c'était peut-être le match en termes d'émotion qui nous avait amené le plus haut. Mais franchement, on le met dans il est dans le top 10.
Oui, bien sûr. Il n'y a pas que les finales, hein, l'émotion, le Paraguay en 98, le 8.
Evra avait dit qu'à la finale de l'Euro 2016 au Stade de France, il n'y avait pas eu une aussi grosse ambiance que contre l'Ukraine.
C'est possible.
Parce franchement, ce soir-là, il y avait le feu.
Ouais, c'était incroyable.
C'était un stade de club ce soir-là.
Il s'est passé un truc irrationnel dans le stade ce soir-là.
La fédération avait bradé les places pour ce France-Ukraine.
Ouais, il y avait des drapeaux partout.
Ce soir,
c'est des actes fondateurs de la fédération.
T'as un drapeau ?
Ouais, je crois. Ouais.
Et il y avait aussi des actes fondateurs du management de Didier Deschamps, ouais, faire des choix forts. On a parlé de Nasri, on a Abidal aussi qui est sorti de la sélection à partir de là. Et c'est des choix forts de Didier Deschamps qui les assume. Et on connaît le parcours derrière. Donc évidemment que ce match ce soir-là, c'était pas gagné d'avance qu'en Ukraine, tu t'es un peu fait balader. Ouais. Ça montre et ça part de là, cette histoire.
C'est le souvenir d'une dernière galère. C'est la dernière fois qu'on a galéré, en fait, avec l'équipe de France. C'était Didier Deschamps donc, qui a réussi derrière un sans faute à la tête des Bleus, en tout cas pour les qualifications.